Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Aujourd'hui, une femme sur trois dans le monde subit des violences. En France, 200 000 femmes sont victimes de violences physiques. 15 500 femmes sont victimes de violences sexuelles. Les violences faites aux femmes prennent plusieurs formes, mais chacune d'entre elles laisse une empreinte indélébile, qu'elle soit psychologique, physique ou sexuelle, qu'elle se produise dans la famille, dans l'espace public ou au travail. Elles ont les mêmes points communs, elles sont inacceptables, insupportables. De plus, les violences à l'égard des femmes et des jeunes filles ont un impact considérable sur leur santé et augmentent leur risque de contracter le VIH et les hépatites. Les femmes vivant avec le VIH sont aussi les plus vulnérables aux violences. Alors, comment lutter contre cette violence qui ne diminue pas dans le monde? Comment vivre en aidant? Comment aider ces femmes? Quelles sont les aides proposées ici en France? Nous essaierons de répondre à toutes ces questions avec nos invités, avec le docteur Isabelle Roustan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Docteur, vous êtes médecin généraliste à l'hôpital Henri Mondor, c'est du côté de Créteil, et vous êtes référente du service des urgences pour les femmes victimes de violences. Nous rejoint au téléphone notre conseillère, c'est Axelle Jajiquet, qui nous rejoint ce matin. Bonjour Axelle et merci beaucoup de vous être rendue disponible, vous êtes au téléphone. Avec nous également Minou Chris Tyle, elle va témoigner dans un instant. Elle est originaire du Cameroun où elle se trouve. Elle a été victime de violences conjugales, humiliée et battue par son compagnon. Elle a décidé de se lever, de s'exprimer et de briser ce tabou. Elle est aussi fondatrice d'un mouvement. Ça s'appelle « J'ai décidé de vivre ». On en parlera également avec elle dans quelques minutes. Merci à toutes les trois, mesdames, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, les chiffres sont là. En 2016, 123 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une femme tous les trois jours. 223 000 femmes âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint. 25% des femmes âgées de 20 à 69 ans déclarent avoir subi au moins une forme de violence dans l'espace public au cours des 12 derniers mois, soit environ 5 millions de femmes victimes chaque année. C'est vrai qu'il est important de le rappeler et d'essayer d'apporter une assistance à ces femmes. Alors, que disent ces chiffres, docteur Isabelle Roustan? Bonjour.
Bonjour. Ce que disent ces chiffres, c'est que ce n'est pas du tout un problème annexe, qu'effectivement, une femme sur trois dans le monde, vous l'avez dit, subit des violences. Et en France, beaucoup de femmes sont victimes de violences physiques. Et un nombre un peu moins important, mais tout de même, plus de 15 000 femmes sont victimes de violences sexuelles, que ça puisse être tentative de viol éventuellement ou viol. Et finalement, ce que l'on voit, c'est que peu portent plainte, moins de 10% portent plainte. Et que chaque année, peu de personnes finalement sont condamnées pour justement ce genre de fait. Donc il y a une grande différence entre justement ce qui se passe et ce qui est mis devant la justice. Je crois que beaucoup de femmes restent seules par rapport à ce problème-là et je crois que c'est vraiment très très important qu'elles puissent être aidées, qu'elles sachent d'abord qu'elles sont victimes, qu'elles n'y sont pour rien, que la loi les protège et qu'il y a un certain nombre de propositions qu'on peut leur faire pour justement essayer de s'en sortir.
Alors Axelle a une réaction par rapport à ces chiffres d'introduction?
Oui, moi j'ai un petit bémol en plus à apporter là-dessus. Les chiffres qu'on a sont les chiffres de celles qui se déclarent. En fait, il y a une grande part de victimes qui ne se font jamais connaître. Donc il faut savoir que, mine de rien, ce qu'on a là, ce qu'on peut partager ensemble comme chiffre ne prend pas en compte celles qui ne nous diront jamais rien.
Vous faites bien de le rappeler, Axelle, hein, puisque les violences contre les femmes sont l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde, et pourtant les moins reconnues, hein, vous le dites bien. Et selon la Banque mondiale, le viol et les violences conjugales représentent un risque plus grand pour les femmes entre 15 et 44 ans que le cancer, les accidents de la route, la guerre et le paludisme réunis. Alors justement, on va parler... Oui, Axelle.
Et Aïssa, je vais rajouter quelque chose. Moi, je me souviens d'une étude que j'avais lue au niveau mondial qui avait été faite en 2013. Et ça m'avait glacé le sang parce qu'il révélait que les homicides commis au sein des familles constituaient 47% des homicides de femmes. 47%, hein, des homicides de femmes contre 6% des homicides d'hommes. Voilà, c'est-à-dire que les femmes, le lieu le plus dangereux pour une femme, c'est sa maison, c'est sa famille.
Alors au téléphone, justement, nous allons du côté du Cameroun pour entendre Minou Chris Tile. Merci d'avoir répondu également à notre invitation. Alors vous, aujourd'hui, vous vous battez pour que les femmes camerounaises ne gardent plus le silence sur les violences qu'elles subissent au quotidien. Merci de nous rejoindre. Alors un mot déjà, est-ce que vous pouvez rapidement nous raconter votre histoire, Minou?
Alors, bonjour déjà. Ce qui est assez cool, c'est que déjà je me bats pour les femmes camerounaises, mais aussi en fait normalement pour les femmes beaucoup plus en fait en Afrique francophone. Moi j'ai été en contact normalement de la violence conjugale en allant m'installer en fait en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Bénin. Normalement, comme je le dis au départ, en fait c'est vraiment une très belle histoire d'amour, c'est-à-dire que c'est un charmant, et mon choix c'était d'aller vers cette personne parce que je me suis dit elle était aussi en Occident, elle était à Paris et elle venait en fait d'un pays qui vraiment sublimait la femme en matière des droits,
ouais.
Et qui avait une très grande avancée, qui était le Canada, qui était Montréal. Donc en fait je veux dire que normalement je me suis dit bon bah il y aura pas de souci, et puis bon moi aussi bon je veux dire que je suis journaliste à la base,
ouais.
Avant cette passion en fait de me concentrer sur le sujet. En fait aussi je veux dire que je suis connue dans mon pays pour être une grande gueule, pour être une femme libre et aussi féministe. Donc en fait j'arrive et c'est je veux dire que les premiers mois c'est le rêve, c'est l'idéal. Mais cette fois-ci en fait ayant grandi d'abord dans un foyer où je suis fille unique avec des frères, donc ça veut dire en fait que le premier féministe de ma vie c'est mon père, j'ai toujours en fait évolué dans un univers privilégié. Et je croyais en fait que normalement la vie c'était comme ça. Ma rencontre avec l'Afrique de l'Ouest non seulement a été un choc, un traumatisme à tellement de niveaux, parce que ça me renvoyait sur la réalité de la condition de vie,
oui,
des femmes en Afrique en général et en Afrique francophone. Donc en fait, je veux dire que
avec
c'est vraiment l'histoire en fait d'une femme qui tombe amoureuse. Et puis en fait, déjà la première des choses, c'est quoi? C'est que en constatant des infidélités suite à cela, j'ai reçu ma première gifle. Et je veux dire, au départ, après quand on prend la première gifle, on pardonne et tout. Et puis il y a cette dégringolade de violence verbale, d'enfermement. Et j'étais dans un pays où je connaissais pas beaucoup de personnes. Et puis petit à petit, en fait, moi normalement, parce que j'aime beaucoup préciser cela, je suis intelligente, je suis instruite, mais j'ai vécu cela. C'est-à-dire en fait que pourquoi est-ce que je parle comme ça? C'est-à-dire que d'habitude j'ai plus envie, étant de plus survivante, d'entrer dans le côté dramatique de la chose.
Oui.
C'est-à-dire en fait que j'ai besoin dans mon histoire de, parce qu'en fait mon histoire ressemble vraiment à l'histoire de milliers de femmes en Afrique, c'est-à-dire en fait avec un parfum d'infidélité.
Alors justement,
un parfum en fait de domine.
Comment avez-vous réussi à vous,
oui,
en sortir? Comment vous avez réussi à vous reconstruire? Et déjà, quel a été le regard des autorités lorsque vous vous êtes rendu au commissariat pour porter plainte? Racontez-nous un petit peu un peu le regard de,
bon,
de la...
Alors, déjà, je ne suis pas allée au commissariat. Déjà, un, parce que en fait, et ça, il faut le dire, les femmes victimes de violences, d'abord, un, c'est que quand j'ai été victime, quand j'ai reçu des coups, et que j'ai dit que j'allais aller au commissariat, il m'a regardé, il m'a dit, tu n'es pas dans ton pays. Et puis, j'étais déjà, en fait, physiquement, psychologiquement, et vraiment très, très atteinte. Il m'a dit, tu n'es pas dans ton pays, et puis, ce sera ta parole contre la mienne. Donc, il y a d'abord eu cette peur. Le commissariat, c'est pas moi qui l'ai vécu là, c'est beaucoup plus en aidant maintenant les femmes.
Oui.
Maintenant, j'ai pu en fait partir à Abidjan, et à Abidjan, en fait, j'ai pu être chez ma marraine et mon parrain, et ils m'ont vraiment donné beaucoup d'amour, et alors j'ai commencé à témoigner, parce qu'en fait, je suis connue dans mon pays, et puis j'avais disparu des réseaux sociaux, parce que je suis très, 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 je suis réseaux sociaux addict. Et en fait, ce qui a été d'abord choquant, ça a été d'abord, en fait, le fait que les femmes, en majorité d'abord, et certains hommes m'ont insulté. C'est-à-dire, en fait, que
Pourquoi? Parce que
au-delà même de voir des au-delà de voir des photos et tout le reste, ça a été du fait que. Mais pourquoi est-ce qu'elle parle d'abord de ça? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait la violence était, et j'étais là, je me suis rendu compte qu'ici, en fait, c'était quelque chose d'abord de toléré, mais en fait c'était du genre, mais d'abord qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te batte? Peut-être tu le mérites. On a essayé de voir peut-être parce que j'avais un piercing au nez. Après, on a dit, mais si tu as tué le genre de personne, en fait, qui raconte ce genre de trucs sur Internet, ça veut dire qu'en fait, tu es le genre à scandale et tout, et tu le mérites. Et à partir de, et puis après, il y a eu une vague de femmes qui m'ont écrit, c'est-à-dire que j'avais jamais vu autant de femmes.
Qui vivaient la même situation, qui se reconnaissaient à travers votre histoire.
Mais, exactement. Moi, je l'ai vécu que un an, mais il y a des femmes qui l'ont vécu 10 ans, qui l'ont vécu 5 ans, et qui, maintenant, en fait, je veux dire, m'ont raconté leur réalité. C'est-à-dire que pour moi, honnêtement, moi, c'est quelque chose qui m'a détruite parce que je suis à 1 an, 9 mois de reconstruction avec tentative de suicide, avec psychotrauma, et l'un des gros problèmes, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans la réalité des mondes des violences en Afrique, c'est quand on se rend compte, en fait, que vous êtes en bonne santé, vous rencontrez quelqu'un, en fait, qui vous rend malade, qui vous détruit, et le pire, en fait, c'est que il n'y a pas de médecin. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de spécialistes en traumatisme, pas de psychologues qui sont réellement formés, on n'a pas d'appareil judiciaire qui est formé, mais le pire, c'est qu'il n'y a même pas de victimologue. Donc, on ne sait même pas ce que c'est la mémoire traumatique.
On va vous reprendre.
En fait, c'est-à-dire qu'en fait, les femmes sont... Ok.
Dans un instant, hein, si vous voulez bien, Minou, parce qu'on a pas mal d'auditrices qui veulent témoigner, c'est le cas de Caroline. Elle dit, d'accord, je voudrais témoigner au sujet d'une compatriote qui vivait en Haïti avec son époux et ses enfants et qui a été défigurée et rapatriée aux États-Unis pour suivre des soins importants. Alors, allez-y rapidement, Caroline, on vous écoute.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui. Alors oui, effectivement, il s'agit pas de moi, il s'agit d'une compatriote qui a subi une violence mais atroce, qui a été aspergée d'acide. Donc je vous laisse imaginer un peu le tableau. Donc cette compatriote est défigurée à jamais. Elle subit des soins, elle est plus que forte, elle essaye de s'accrocher parce que suite à cette agression, son époux a disparu avec leurs 3 enfants. Nous ne savons pas où ils sont à l'heure actuelle. Mais je pense qu'elle s'accroche par rapport à ses enfants, qu'elle espère voir très rapidement, et elle espère également que justice soit faite, parce que jusqu'à présent, nous n'avons aucune nouvelle, nous ne savons pas où en est la procédure, et malheureusement, cette femme qui se nomme Ève Cassiré ne retrouvera plus sa figure, donc elle est défigurée à jamais, et pour qu'elle refasse sa vie, ça va être très compliqué et bon, la communauté tchadienne est très touchée par cet acte et ça circule sur les réseaux sociaux. On voit la... Voilà.
Merci en tout cas pour votre appel et ce témoignage. Merci beaucoup, Caroline.
Merci pour tout ce que vous faites et de nous donner la parole pour nous exprimer. Et franchement, c'est très bien pour nous, la communauté africaine.
Merci à vous, Caroline. Merci en tout cas pour votre appel. Mélodie, bonjour. Alors, vous vouliez parler de la violence au quotidien subie par les femmes sur le continent africain, c'est bien cela?
Oui, sur le continent africain, moi, mon témoignage, c'est toujours, je n'ai pas eu de violence vis-à-vis des hommes, hein, mais simplement, je voulais dire.
Allez-y,
Mélodie. La violence des femmes, c'est plus aussi dès le bas âge, hein, parce que aujourd'hui en Afrique, vous avez les jeunes filles qui ne vont pas à l'école à partir de 6, 7 ans, sont gardées dans les familles des cousins, des neveux. Et ces enfants sont maltraités. Donc du coup, les petites filles, elles grandissent aussi dans cette violence. Elles n'arrivent plus à parler. Les gens grandissent sans parler. Le pouvoir en place aujourd'hui n'a pas de moyens de défense concernant les jeunes filles. Et donc cet enfermement de la femme africaine qui a du mal à exprimer sa colère, c'est aussi parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas de communication dans les écoles. Il n'y a rien qui est fait aussi pour les filles. Donc, j'espère vraiment que ce débat continuera.
Merci, Mélodie.
Et que les réseaux sociaux en parleront. Afin d'aider aussi la population africaine à s'ouvrir.
Merci pour cette intervention.
Parce que l'homme africain est très barbare et très violent. Donc aujourd'hui, la violence en Afrique, c'est trop, c'est même de trop.
Merci à Mélodie pour ce témoignage. On vous souhaite beaucoup de belles choses. Axel, quelle est votre réaction?
Merci Mélodie pour avoir facilité ce que je vais dire. Moi maintenant, la raison pour laquelle j'ai accepté de témoigner ce matin, c'est que moi je suis une enfant, une ancienne enfant d'un foyer violent. Et je voulais vraiment intervenir pour dire qu'il ne faut pas oublier les enfants dans la configuration des violences conjugales. Oui. Ils voient et ils entendent tout. Et surtout plus grave, ils sont susceptibles, une fois adultes, de reproduire ce à quoi il leur a été donné d'assister, parce que la violence auquel on assiste, nous enfants, moi dans mon cas, j'ai été donc éduquée par un tuteur. Ce tuteur était un homme violent qui était violent aussi avec ses compagnes, les femmes que j'ai vues moi passer à la maison, qui étaient donc ses amoureuses et l'une d'entre elles même sa femme, étaient des femmes qui battaient mais comme plâtre. Et en fait, la situation était ambivalente dans mon cas, c'est que quand il n'avait pas de petite amie, c'était à moi qu'il s'en prenait. Donc je suis arrivée à l'adolescence avec un grand sentiment de culpabilité, parce que j'étais arrivée à un stade où moi je souhaitais qu'il ait quelqu'un pour pas prendre les coups. Donc c'est un rapport un peu compliqué. Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que c'était pas de ma faute et que je ne souhaitais pas du mal aux femmes qui arrivaient, mais que c'était juste une histoire d'instinct de survie, puisque effectivement sinon moi je pouvais y laisser ma peau aussi. Et cet homme-là, moi, je l'ai vu vraiment battre jusqu'au sang des femmes qui étaient amoureuses de lui, qui se pensaient en tout cas amoureuses de lui. Et je suis sortie de ce foyer-là en découvrant des études qui disaient que j'avais de fortes chances, en ayant été baignée là-dedans, de reproduire ce modèle-là, une fois adulte, dans mes relations sentimentales. Et que, ayant vu ça comme une preuve d'amour, enfin, j'étais susceptible de confondre violence et amour. Et il se trouve que ça ne s'est avéré ne pas être le cas, parce que moi, j'ai eu d'autres biais de résilience et d'autres moyens de me réapproprier un intime. Et surtout, j'ai découvert par les livres et par d'autres couples que je voyais autour de moi dans les familles de mes copines, qu'en fait, l'amour, c'était pas ça, quoi. C'est que ce qui se passait à la maison n'était pas normal.
Alors, docteur, on voit bien que les femmes ont besoin de parler, de raconter les violences qu'elles ont à subir. Et d'ailleurs, depuis quelques années, la libération de la parole des femmes, après l'affaire Weinstein, je ne vous apprends rien, a permis à des femmes de raconter, de casser, de briser tous ces tabous. Alors, quelles sont les conséquences des violences physiques et sexuelles sur la santé des femmes, docteur?
Alors, quelques chiffres peut-être. On sait qu'une femme décède tous les 3 jours en France en raison de violences au sein des couples, et qu'il y a même effectivement, comme le disait Axel aussi tout à l'heure, beaucoup d'enfants mineurs qui sont victimes justement de ces violences, et en particulier un certain nombre d'enfants mineurs qui décèdent à l'occasion de ces violences. Et on sait que ces violences ont des impacts importants sur la santé des victimes. On sait que, par exemple, que ça, quand une femme est enceinte, qu'elle subit ces violences, et c'est souvent, malheureusement, la grossesse est souvent un moment où les violences physiques se déclenchent à l'intérieur d'un couple. C'est vraiment un moment à risque. On sait que ça multiplie par 2 pratiquement le risque de fausse couche. On sait aussi, comme l'a dit tout à l'heure un témoin, que les femmes victimes de violences ont beaucoup plus de risques, 26 fois plus de risques de faire une tentative de suicide que les autres. Et beaucoup développent des dommages psychologiques très importants. Et des dommages psychologiques importants qui, s'ils ne sont pas pris en compte, durent toute leur vie. Il y a également aussi des risques importants, justement, de développer des risques par rapport, entre autres, des violences sexuelles, etc. Des risques d'infections sexuellement transmissibles, la transmission du VIH.
Dans des situations de précarité, par exemple, où les femmes sont un peu obligées, par exemple, d'échanger les rapports sexuels contre un toit, contre de l'argent, contre un emploi. Dans ces situations de précarité, dans ces situations de migration également, je pense que les femmes sont encore un petit peu plus vulnérables.
Tout à fait. On voit effectivement un certain nombre là de personnes migrantes qui viennent d'arriver en France, qui sont à la rue, qui ne sont pas encore logées et qui effectivement choisi, si on peut dire que c'est un choix, pour loger chez un certain nombre de personnes contre des services sexuels pour justement ne pas subir la violence de la rue.
Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est très dense. Il reste 3 minutes, docteur. Alors l'objectif de cette émission, c'est aussi de dire aux femmes, ne restez pas silencieuses. Il y a des dispositifs en France, il y a des associations. Les pouvoirs publics sont également très impliqués également dans la lutte contre ces violences. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par exemple à une femme qui nous écoute là, qui a un problème, qui en a pas encore parlé et qui veut que ça s'arrête?
Alors je crois qu'il y a un numéro de téléphone à retenir, c'est le 3919. 3919, c'est un numéro gratuit qui est accessible 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au vendredi, de 9h à 18h les week-ends et jours fériés. C'est un numéro de téléphone qui n'est pas repérable sur les factures de téléphone.
Ouais.
Et c'est un numéro de téléphone qui est un numéro de téléphone d'écoute, d'information et d'orientation. Ce n'est pas un numéro d'urgence, c'est-à-dire en cas d'urgence, il faut appeler soit le 17, soit le 18, la gendarmerie, les pompiers, ou éventuellement le 112 à partir d'un téléphone portable. Mais le 3919, vous aurez au bout du fil un certain nombre de personnes qui pourront, entre autres, vous informer et vous donner le numéro de téléphone et des associations qui sont les plus près de chez vous. Et les associations sont pleines de ressources par rapport à ça, en particulier des ressources juridiques,
oui,
pour vous aider éventuellement à porter plainte, etc., oui, à vous, oui, accompagner, mais également un accompagnement psychologique qui est absolument essentiel dans ces cas-là. D'abord, effectivement, une écoute et secondairement, éventuellement, un accompagnement beaucoup plus concret.
Aksa Djajike, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Il ne reste pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui nous écoutent et qui seraient concernées par ces violences?
Alors, pour celles qui sont sur le continent africain, qui sont une grande part de notre audience, parlez-en. Trouvez des amis, des femmes autour de vous auxquelles vous pouvez vous confier sur ces questions-là, parce que malheureusement, nous, on ne dispose pas sur le continent d'un numéro comme le 3919. Hein. On n'en est pas encore là. Je pense que Minou dira le contraire. Mais vous pouvez, tout ensemble, déjà en étant en mesure d'entendre le récit des unes et des autres sur ces faits-là, commencer à développer quelque chose qui ressemble à la résistance et de la résilience. Donc, parlez-vous les unes et les autres. Vous allez voir que vous n'êtes pas si isolé que ça.
Minou, on va vous laisser la dernière minute rapidement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer? Minou?
Alors, ce que j'ai envie de dire pour terminer, c'est... Oui, allô, je suis
allez-y
là.
Allez-y vite, allô, il reste 50 secondes.
Alors, je voudrais juste en fait demander mon cri de cœur, c'est sincèrement en fait de faire des violences faites aux femmes, franchement, le plan national dans tous les pays en Afrique francophone, pour qu'à un moment donné, en fait, ce sujet aille sur la table des dirigeants. Sans vraiment une décision politique, nous ne pourrons pas nous en sortir.
Merci à toutes les trois d'avoir répondu à notre invitation. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient passer. Ousmane, Marcus, des auditeurs qui n'ont pas pu passer malheureusement puisque le temps est passé très vite. Il y avait beaucoup de choses à dire. Donc ne restez pas seules, ne restez pas silencieuses. En France, il y a tout plein de dispositifs. Il y a des associations qui peuvent vous écouter. N'hésitez pas aussi à en parler à votre médecin traitant, au planning familial, à la PMI. Donc voilà. Il est 9h53 sur la radio africaine. C'est le moment de marquer la pause. On se retrouve juste après pour la suite du programme.